Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme tous les samedis soirs pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shavuatov.
Bonsoir.
Et nous allons, comme chaque semaine, survoler la paracha qui nous occupe cette semaine. On est donc vers un nouveau chapitre. Et on arrive à celui qui s'appelle Vayeshev. Dans ce chapitre, il y a une histoire qui est très étonnante parce qu'on voit Yuda pris dans une histoire avec Tamar, qui à ce moment-là apparaît comme une prostituée. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais parce qu'on est très étonné. On est très étonné de voir un personnage aussi considérable, tellement important, tellement juste, se retrouver dans une situation comme celle-ci. Et bien sûr que si la Torah nous la raconte, c'est qu'elle a des enseignements. Et c'est de cela dont vous voulez parler ce soir, Ravelli Lemel.
Exact. En effet, on est une paracha dans laquelle on a cet événement qui est quand même un événement assez bouleversant. En tout cas, quand on en a une lecture extérieure, c'est cette fameuse rencontre de Yehuda avec celle qui s'appelle Tamar, sa belle-fille, et avec laquelle il va y avoir une relation. Et à partir de cette relation, d'ailleurs, eh bien, vont naître deux enfants, dont l'un d'entre eux sera à l'origine de la lignée du Messie. Alors évidemment, c'est une histoire extrêmement intéressante parce que on se rend bien compte que toute l'histoire du Mashiach arrive à travers des événements complètement improbables et surprenants. Quand on analyse le texte sur place, eh bien, on voit bien Vayet et Léa et la derrière. Le texte nous dit bien que c'est Dieu, au fond, qui est en train ici de pousser Yehuda à aller vers celle qui est Tamar. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se jouer. D'ailleurs, quand vous analysez plus en profondeur le texte, il y a ici comme une forme de vrai mariage qui se passe entre les deux. Mais ce qui est passionnant, au fond, c'est surtout ce qui va se passer lorsque Yehuda se rend compte que sa belle-fille, eh bien, est enceinte et il ne sait pas que c'est de lui. Et là, eh bien, Yehuda la condamne, il dit « c'est pas possible, il y a un acte de prostitution » et elle est là. Et le texte nous dit « Himutsed vishalchel chamia les morts ». Elle est posée là et elle envoie son beau-père. Les mots suivants, elle lui dit « voilà le message, c'est celui à qui appartiennent ces objets de qui je suis enceinte ». Car en effet, lorsque Yehuda s'était tourné vers elle, il lui avait donné des objets en gage pour pouvoir payer par la suite et puis elle disparaît, elle garde les objets. Elle dit, voilà, j'ai ces objets, ben c'est celui à qui ça appartient, moi je ne sais pas. Et au fond, ici, Yehuda, il est face à une situation bouleversante, il se rend compte que, eh bien, c'est lui. Il aurait pu trouver une solution de secours, dire, bon, écoutez, il y a donc ici enquête à mener, nous allons revenir sur le dossier, nous allons reprendre les éléments, et puis on vient voir, et puis après, bon, ben, on n'en parle plus. Et le texte nous dit que Yehuda est en train de faire quelque chose qui, a priori, est censé le fusiller complètement. C'est-à-dire, c'est la fin de sa carrière, on aurait dit chez nous. Il dit, ben oui, elle a raison, c'est moi. Vous imaginez un petit peu, il est là, il reconnaît. Il reconnaît qu'en effet, eh bien, il s'est trompé, pas seulement il s'est trompé. Alors, c'est pas une faute dans le sens transgression tel qu'on le comprend, nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il reconnaît son erreur. Et au moment où il reconnaît son erreur, on peut dire ça y est, Yehuda, mais c'est terminé, on le met de côté. Et c'est là où justement toute l'histoire de Yehuda commence, et c'est de là que commencer la lignée du Messie. Pourquoi ? Parce qu'il a cette capacité de son côté de reconnaître qu'il a pu faire une erreur, et de ne pas avoir peur, et de l'assumer. Cette notion de Tzadka Mimeni, et d'ailleurs c'est ce que dans les bénédictions qu'on donnera à Yehuda, il y aura marqué « Yehuda ata yoducha achecha ». Yehuda, eh bien, toi en vérité, tu vas accéder à la dimension du Olam Haba, du monde à venir, parce que justement, tu n'as pas eu peur de reconnaître devant les autres l'erreur qui était la tienne. Alors évidemment, ça nous interpelle parce que, imaginez dans nos sociétés quelqu'un qui serait capable d'avouer devant tout le monde qu'il a fait une erreur, généralement, eh bien, cette personne sera clouée au pilori. La grandeur de justement Yehuda, mais surtout de ceux qui l'entourent, c'est de voir dans cette reconnaissance d'une erreur l'expression d'une réelle grandeur qui justement va être à l'origine de ce qui pourra amener la royauté du roi David et donc le Machiach. Ça, c'est au niveau de Yehuda. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous savez que parmi les très, très grands maîtres de la pensée juive, il y en a un qui s'appelle Rav Yisrael Salanter. Rav Yisrael Salanter était un génie absolu et quelqu'un qui a beaucoup développé l'étude du moussar, c'est-à-dire l'étude de tout ce qui a trait au domaine de l'éthique. Et c'était aussi un Talmid Chacham, quelqu'un qui avait une connaissance en Torah gigantesque. Et on dit qu'un jour, il donnait un cours quelque part et une personne lui a posé une très bonne question. Et lui, évidemment, va dire, eh bien, la question est excellente, je remets en cause tout ce que je viens de dire. Et après cela, il a expliqué, il a dit, au moment où on m'a posé la question, j'ai eu 3-4 réponses immédiates qui sont arrivées en tête. Et elles auraient pu satisfaire les gens. Mais je savais que dans l'absolu, elles n'étaient pas vraies. Alors j'ai reconnu que la question est excellente. Ah, maintenant, les gens vont penser que je suis peut-être moins brillant. Et peut-être que ça va avoir un impact sur la suite de mon discours dans certains domaines. C'est plus mon problème. Voilà un petit peu déjà cette capacité de Hoda. Mais de l'autre côté aussi, on a quelque chose d'incroyable. On a Tamar. Tamar qui est là, qui dit « moi je dis rien ». Et Tamar ne dit rien. Et elle sait très bien que les conséquences pour elle peuvent être extrêmement dures. Elle va être condamnée. Et de là, nos maîtres apprennent que il vaut mieux parfois pour une personne de se laisser aller tomber dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à quelqu'un en public. Et c'est vrai que c'est quelque chose de bouleversant de voir que elle dit, eh bien, moi, je ne ferai pas honte à quelqu'un en public. Je ne dirai pas c'est lui. Je ne pointerai pas de doigt accusateur sur lui. Ô combien aujourd'hui, dans nos générations dans lesquelles on voit qu'on est à l'affût des moindres petites choses pour justement en public vilipender, et c'est exactement le contraire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, elle va être celle qui va amener aussi le Machiach. D'ailleurs, il y a un très bel enseignement dans le traité de Ktuvot. Il y avait un maître qui s'appelait Maroukva. Maroukva avait dans son quartier une personne qui était pauvre, et chaque semaine, eh bien, il glissait discrètement à l'entrée de chez lui quelques pièces d'argent, 4 pièces exactement d'un Talmud, et puis après, il s'enfuyait. Le pauvre les retrouvait chaque semaine, et puis une semaine, il s'est dit « Non, non, je veux voir qui est-ce. » Et donc, il se cache, et lorsqu'il voit eh bien, que les pièces arrivent, il sort, et Maroukva s'en rend compte, alors il s'enfuit. Il court très, très, très vite avec son épouse, et son épouse et lui, eh bien, pour ne pas être reconnus de ce pauvre, vont rentrer dans un four. Dans un four, vous savez, ces grands fours à pain, dans lequel il fait très chaud, dans lequel il se brûle un peu les pieds. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas lui faire honte. Mais quelle honte ! Quelle honte ! Il est pauvre, on lui donne de l'argent. Non, parce que leur finesse, leur délicatesse, c'est qu'on va le rencontrer de nouveau. Et on ne veut pas qu'il se sente gêné par rapport à nous, de réaliser que c'est nous qui lui apportons. Voyons jusque où vont les choses dans cette dimension de raffinement extrême dont vont faire preuve d'un côté Yehuda et de l'autre côté Tamar. Yehuda dans cette capacité à reconnaître. Et d'ailleurs, on le voit bien, Yehuda c'est Yehudi, Yehudi c'est le juif, c'est la reconnaissance dans la double acceptation de son terme. Et à la fois je reconnais, je dis merci, je reconnais ce que l'on m'apporte et en même temps je n'ai pas peur de reconnaître mes erreurs, mes dysfonctionnements, mes faiblesses, au fond, tout ce qui fait de nous un être humain qui a besoin d'avancer, de progresser. Mais on ne peut le faire que dans un monde qui comprend que reconnaître son erreur, c'est l'expression d'une grandeur réelle, avec cette interrogation sur ce qui se joue dans nos générations. Et de l'autre côté, eh bien, Tamar qui est cette femme qui a un courage incroyable, parce qu'au fond, elle aurait pu dire, vous savez, c'est lui, et puis ça suffisait, elle dit non. Cette notion de malbin connaît Chaver Omar Rabin, de ne pas faire honte à quelqu'un en public. Nos maîtres disent dans le Talmud que quelqu'un peut transgresser un interdit, d'avoir une relation interdite, mais il peut, s'il fait tchouva, eh bien avoir accès au monde futur. Par contre, quelqu'un qui fait honte à une personne en public, celui-là ne peut pas avoir accès au monde futur parce qu'il a détruit véritablement quelqu'un. Voici ces leçons extraordinaires que ces deux personnages nous donnent dans cet événement qui est très, très surprenant, très bouleversant, qu'il faut étudier avec profondeur, parce que vous vous rendez bien compte que si la Torah nous relate cela, c'est qu'il y a pour nous un enseignement formidable. Le Machiach va aboutir, d'un monde dans lequel la préoccupation que l'on a de ne pas faire de souffrance à l'autre, de ne pas lui faire de peine, de ne pas lui faire de ne pas lui faire de honte, et ce, quelles que soient les situations, eh bien, est au cœur de son arrivée dans ce monde. À nous de savoir nous en inspirer, tout simplement.
Ravelli Lemel, on va essayer effectivement de réfléchir, c'est tellement important dans notre monde où tout se voit, tout se dit, les téléphones, les vidéos qu'on partage. Alors oui, essayez de ne pas humilier quelqu'un en public, c'est très important. Merci pour ces belles paroles et ce bel enseignement. Shavuot Tov.
Shavuot Tov.
Nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shavuot Tov.
Shalom Aleichem, Shavuot Tov.
Shavuot Tov à Jérusalem. On continue notre réflexion sur la paracha de notre semaine. Vous avez estimé, et vous allez nous expliquer, que cette paracha, elle nous explique c'est quoi la racine de l'exil. Et nos maîtres ont expliqué que la racine de l'exil, c'est la coupure avec l'autre. C'est le début de l'exil. La coupure avec l'autre.
Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? À peine formé, le peuple juif voit s'affronter Yosef avec ses frères. Et Yosef, il a une certaine approche de la vie. Il se maquille, il se fait beau. Il se boucle les cheveux. Et ses frères, ils ont une autre approche. Ses frères, ils disent, Yosef, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je pense que finalement, ma kdoucha, ma sainteté, je ne l'offre pas au monde. J'offre au monde un visage qui est le visage du monde. Je me fais beau. Et les frères, ils disent, non, il faut être toro kebaro. Ce que tu as à l'intérieur, c'est de la Torah, c'est de la sainteté, ça doit se voir sur ton système pileux, ça doit se voir sur l'extérieur, on doit voir que tu es juif, on doit le voir. Et puis, se greffe aussi sur ça, une marloquette, une dispute finalement sur l'aînesse. Parce que finalement, quand Yaakov, la première nuit de noces, pensait être avec Rachel, comme un prophète qu'il était, il était en train de concevoir Yosef. Yosef, c'est le fils aîné. Il va quitter la vanne lorsque Yosef naît. Parce que Yosef, nous dit Rashi, c'est l'opposition à Esav. C'est celui qui permet d'affronter Esav. Donc dans tous les exils que le peuple juif va traverser, à l'image de Yaakov qui traverse des exils, Yosef, il incarne, par sa sainteté tranquille, par son attachement permanent à la Torah, la capacité de résidence, de résistance et de résilience à Esav, à Esaü, à tous les exils. Et les frères, ils disent, tu veux donc être le frère, tu vas donc être le roi, tu vas être celui qui va nous gouverner. Pas du tout, le roi c'est Yehuda. Yehuda, c'est lui qui dirige le peuple juif. Et donc autour de cette marloquette, eh bien, va se nouer de la haine gratuite, lui va rapporter... tous les méfaits, entre guillemets, les méfaits supposés de ses frères, eux vont le détester en fonction d'une supposée volonté d'hégémonie. Bref, on est au cœur ici de la marloquette. Mais comme vous l'avez dit dans l'introduction, on est au cœur de la coupure du lien à l'autre. Alors les frères, évidemment, vont le vendre, il va se retrouver en Égypte. Du fait de cette vente en Égypte, nos maîtres disent qu'on a dû repartir, nous, en Égypte, en exil. Et comme on n'est pas resté le temps que l'on aurait dû rester là-bas, c'est-à-dire 400 ans, il fallait repartir en exil derrière. Bref, on est ici à la racine historique et spirituelle de tous les exils. Mais le point intérieur de cette affaire, où ça démarre? Ça démarre dans la coupure de la relation à l'autre. Et il faut expliquer ici, pourquoi la coupure de la relation à l'autre, c'est l'exil? Qu'est-ce que c'est une galoute dans la Torah? Exil en français, d'accord, mais dans la Torah, l'exil s'appelle la galoute. Galoute, ça a la racine golé, gemel, lamed, he. La lettre du nom de Dieu se trouve dans la racine du mot de l'exil, mais elle est sur les côtés. Dans la geoula, dans la délivrance, gaal, il y a le gimel et le lamed qui veut dire dévoilement, mais le aleph, qui est la lettre de Dieu, est au centre. Dans le dévoilement, la sortie d'Égypte, la fête de Pourim, Hanouka, et bientôt le Mashiach, Dieu est au centre. On voit l'être divin, on voit l'intervention divine, mais dans l'exil, la présence divine se voile. Pourquoi est-ce qu'elle se voile? La présence divine, le temple par exemple, a été construit par Shlomo, le roi Shlomo, le roi Salomon. Le roi Shlomo, c'est celui qui fait le shalom entre le peuple juif, entre l'humanité tout entière et Hachem. Pourquoi ? Parce que tout est à sa place. Dans le temple, le juif, et même le représentant de toute l'humanité, peuvent venir servir Hachem. Et Hachem est là, il est visible en quelque sorte. La présence d'Hachem est visible et palpable. Tout est en place. Et fondamentalement, à partir du moment où le shalom disparaît, shalom, c'est un des noms de Dieu. Un nom de Dieu, c'est toujours dans la Torah un mode d'intervention de Dieu. Le mot shalom, il vient du mot shalem. Shalem, ça veut dire parfait. Il y a dans la relation à l'autre, dans le shalom avec l'autre, la recherche d'une perfection dans la relation à l'autre. Si je coupe le lien avec l'autre, ça veut dire que je dis non seulement que cette relation ne peut pas être parfaite, mais je dis que cette relation ne doit pas exister. Or, la raison pour laquelle Hachem nous a mis dans le monde, c'est avant toute chose, c'est pour qu'on apprenne notre relation avec l'autre. Par exemple, on doit apprendre à avoir de la reconnaissance pour les bienfaits. Celui qui nie le bien que l'autre lui a fait, il niera la relation avec Hachem. Celui qui n'est pas capable d'accepter l'autre, il finira par rejeter Hachem. Ve'avta le'recha kamocha, tu aimes l'autre, et alors comme tu aimes l'autre, tu es capable de l'aimer, de l'apprécier, de le comprendre, etc. Tu peux nouer une relation à l'autre, tu pourras nouer la relation avec Hachem. La relation avec les parents, par exemple, c'est le cinquième commandement qui est dans la colonne des relations avec Hachem, parce que ça ouvre par son caractère absolu à la relation avec Hachem, mais en même temps, c'est un intermédiaire pour les relations avec l'autre. Et donc, dans la cellule familiale, en apprenant à vivre avec ses parents, avec ses frères, ses sœurs, en apprenant à partager, c'est un laboratoire de vie sociale, on apprend à la fois à être en relation avec Hachem et en même temps dans la relation avec l'autre. Toujours cette dualité. Dès qu'on coupe le lien, dès qu'on s'aliène l'autre, on coupe la relation avec Hachem. Or, Hachem, il a créé ce monde pour qu'on soit en relation avec lui par le fait qu'on est capable d'être en relation avec l'autre. Donc, il y a une dimension qui est fondamentale. Et quant à l'aube de l'histoire du peuple juif, les frères ne sont pas capables, entre guillemets, je le dis avec guillemets, parce qu'on parle des gens qui sont des géants, mais la Torah ici nous enseigne quelque chose que nous devons comprendre. Ils ne sont pas capables de nouer cette relation. Alors, ils s'interdisent du même coup de nouer une relation avec Hachem. Et donc, hop, tout le monde est jeté sur les routes de l'exil. Et c'est très intéressant parce que quand Yosef est vendu, Réhouven est en train de faire teshuva dans son coin et de pleurer parce qu'il doit faire teshuva sur le fait de s'être mêlé de l'endroit où son père devait dormir. Yehuda a été descendu par ses frères. Il a été destitué de son statut de roi. Donc il est dans sa peine et il est dans l'histoire de Tamar qui est racontée dans cette histoire-là. Yaakov est dans son deuil. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe, nous disent les commentateurs. Hachem amène le Mashiach. C'est-à-dire, puisque vous les hommes, vous démissionnez de l'histoire, moi je ne démissionne jamais. Dans le silence du deuil, je m'occupe quand même de réparer les choses et de faire en sorte que de toute façon, vous devrez un jour vous retrouver, vous devrez un jour reconstruire un lien et vous devrez accepter votre présence les uns vis-à-vis des autres et donc par la même occasion accepter ma présence. Et le processus messianique se met en marche dans le dos de gens qui sont en train de se disputer et de s'affronter, qui sont tous dans la douleur de leur dispute. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Même dans les familles dans lesquelles on divorce et on se tape et on se fracasse, et ces communautés dans lesquelles on se tabasse, et tous ces groupes dans lesquels on crée des haines et des rancœurs littéralement abyssales, en vérité, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on fabrique un exil du sens profond de l'expérience humaine qui est d'être capable d'aller l'un vers l'autre. C'est ça l'expérience humaine. C'est à ça qu'elle sert. Voilà, et donc cette paracha, elle vient nous expliquer finalement ce qui est finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la racine de l'exil. C'est la coupure du lien à l'autre, c'est la coupure du lien avec Hachem, et donc c'est l'impossibilité pour Hachem d'être présent là et maintenant. Mais de toute façon, on a rendez-vous avec ça. Un jour ou l'autre, on devra revenir les uns vers les autres. Un jour ou l'autre, Israël doit revenir une réalité complexe et en même temps unifiée, ce qui est le shalom. Et ce qui permet l'avènement du shalom, l'avènement du Beth Amikdash, l'avènement du Mashiach. C'est pas pour rien qu'on termine la Amida avec la bracha sur le shalom. Le Maharal de Prague dit pourquoi elle n'est pas au début cette bracha. C'est une condition, ça. On devrait la mettre même avant même de dire le schéma Israël, tiens. Avant même de reconnaître qu'on prend sur nous le joug des mitzvot, on devrait commencer avec ça. Non, on la met à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est la fin d'un processus. Il faut parcourir un certain nombre de stations à l'intérieur de son propre être et de la relation à l'autre pour être capable d'arriver au shalom. Mais si on n'en est pas capable, de toute façon, on y arrivera. Hachem fera que nous y arrivons. Alors soyons des acteurs. Soyons des acteurs, tout simplement. Shavua Tov à toutes et à tous.
Rav Mordechai Biton, Shavua Tov, c'est vrai. Il paraît que Rav Eliashiv avait dit que sur les mitzvot, notre génération, elle a travaillé, et que c'est sur les rapports entre les hommes qui nous reste ce travail avant la venue du Mashiach. Ça m'a frappé parce que je me disais, tu vois, même dans le monde des yeshivot, qui n'est pas le monde Lubavitch, c'est Lubavitch qui parle comme ça, ils sont arrivés à la même conclusion, les grands, hein, ils sont arrivés à la même conclusion. Ce qui reste à faire maintenant, c'est vraiment réparer le lien avec les autres.
Bah, regardez Rav Shtetman. Rav Shtetman, quand il a pris la direction de la génération, son travail, ça a été ça. D'aplanir combien... C'était le leitmotiv d'être mévataire, renoncer dans les disputes. D'accord ? C'est absolument extraordinaire. Regardez ce qui s'est passé après Avraham Khemkhanevski avec Rav Ovadia Youssef. L'Egdolim aujourd'hui, c'est leur travail, c'est leur être même, c'est ça, c'est d'essayer d'unifier, de rapprocher, de faire en sorte que les gens se rapprochent. Et c'est extraordinaire parce que vous voyez que plus c'est nécessaire et plus finalement ça se produit, ça se produit hein, d'une certaine manière, et plus finalement le Yetzer Hara quand même des disputes, de la rupture, de la violence, il est là. C'est donc bien la preuve que c'est là que ça se passe, et c'est donc bien la preuve qu'il faut tenir bon. Voilà. Mais je vous aime. Voilà, j'ai envie de vous dire à tous. Je vous aime, je vous embrasse. Enfin bon...
Et à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine.
Sur une radio qui décidément porte un joli nom.
Radio Shalom.
Ravandek Habiton Shavuot. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir Shavuot.
Bonsoir Shavuot. Alors on continue notre réflexion sur la paracha qui vient, la paracha de notre nouvelle semaine. Alors vous voulez ce soir réfléchir avec nous sur Yosef dans le puits. Yosef dans un endroit où il vient d'être abandonné par ses frères, où il est au milieu de serpents et de scorpions, nous dit la Torah. Donc c'est vraiment pour vous l'image du désespoir le plus absolu. Et c'est sur ça que vous voulez intervenir. Et j'imagine que la Torah ne va pas nous donner un message désespérant. Donc j'imagine. Mais nous vous écoutons avec beaucoup d'attention, Evgeny.
Effectivement, Yosef se retrouve... D'abord, les frères voulaient le tuer, puis finalement, ils décident de le vendre. Et avant de le vendre, ils le mettent dans un puits en plein désert. On imagine qu'un puits en plein désert est infesté d'animaux pas très sympathiques, et dont il y a effectivement des serpents et il y a des scorpions. Il est face à cette menace, et donc en danger de mort évident. Et il sera sauvé miraculeusement. Les scorpions... Les serpents ne s'approchent pas de Yosef, il est sauvé et il va être finalement vendu et il finira en Égypte. Alors je voudrais voir dans cet épisode un résumé un petit peu de ce qu'est Yosef et de sa force. Lorsqu'on parle de serpents, lorsqu'on parle de scorpions, évidemment on parle de bêtes sauvages, d'animaux sauvages, mais on parle également, selon la tradition chassidique, de quelque chose de métaphore. C'est une métaphore également. Alors, le puits nous fait penser à ce qui est au fond de nous. Donc, on parle d'un homme, de sa personnalité. Nous avons tous une conscience et aussi au fin fond de notre conscience, des forces obscures qui sont dans l'inconscient, dans le subconscient. Et parmi si on regarde un petit peu ce que nous écrit Freud, on voit que l'être humain, au fin fond de lui-même, il considère qu'il a deux problématiques. La première, c'est l'attirance sexuelle, et la deuxième, c'est justement le fait d'être agressif, vouloir prendre le pouvoir, de vouloir être autoritaire. Une force comme ça qu'on a du mal à canaliser et qui souvent se présente sous une forme très agressive, une volonté, donc une violence qui est au fond de nous et qui peut des fois prendre le dessus. Chez Yosef, à travers ce Yosef dans un puits face au serpent et au scorpion, il faut imaginer que le serpent, en hébreu, ça vient du mot le nachesh. Le nachesh, c'est l'imagination, nichashti. C'est l'imagination. Ça veut dire quoi l'imaginaire ? C'est aussi le fantasme. C'est-à-dire que Yosef, en fait, quelque part, il est arrivé à maîtriser ses fantasmes. Yosef, c'est celui qui explique les rêves. Yosef, c'est celui qui rêve lui-même, mais qui sait interpréter les rêves. Il sait interpréter les rêves de Pharaon. C'est-à-dire que Yosef, il est celui qui a pris la possession, la maîtrise de toutes ses pulsions, même au niveau du subconscient. C'est-à-dire qu'il maîtrise même ses pulsions sexuelles, même à ce niveau-là. Il est aussi celui qui a su maîtriser cette violence qui est malheureusement au fond de chacun d'entre nous, cette volonté de prendre le pouvoir, d'être le premier, d'être toujours celui au-dessus des autres. Et là, Yosef, il a su également, et ça c'est le scorpion qui le représente, prendre, on va dire, mettre à distance cette dimension-là. Il a juste une fois dans sa vie fait une faute. Dans la paracha de Vayeshev, on lui reproche d'avoir dit du mal de ses frères, mais surtout d'avoir voulu prendre la place de Yehuda. Il voulait devenir le patron, devenir le roi, devenir le chef de ses frères. Eh bien, il avait effectivement la royauté, c'était son rôle sur Terre, de diriger, d'être le leader, mais il a été pressé, trop pressé. Il fallait attendre bien plus tard, et c'est effectivement plus tard qu'il deviendra le roi en Égypte, et que ses frères se prosterneront devant lui. Mais là, Yosef a déjà un signe du ciel, comme quoi le serpent et le scorpion s'éloignent de lui parce qu'il a su justement faire un travail personnel extrêmement fort et puissant de maîtrise de soi, de maîtrise de ses pulsions qui sont au fond de chacun d'entre nous. Donc effectivement, Yosef a été sauvé miraculeusement. Et effectivement, ces animaux ne l'ont pas inquiété. Mais au-delà de cela, c'est une image que nous devons retenir comme étant finalement un message pour nous tous. Lorsqu'on part en exil, lorsqu'on est écarté de nos parents, des éléments qui nous rassurent, qui nous protègent, et qu'on est spirituellement en danger, il faut être vigilant, et savoir maîtriser même notre subconscient et les forces, justement, selon le Rav Israël Salanter, Zichrono Livracha, le Moussar, nous permet justement de prendre possession même du subconscient, à travers tout un travail qu'il faudrait un jour que je vous détaille, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui, pour pouvoir justement arriver à maîtriser cela également. Ça, c'est la force de Yosef, et c'est grâce à cela qu'il est sorti du puits, mais aussi surtout qu'il est sorti d'Égypte. Et le puits, c'est un endroit profond, obscur, qui nous font penser aux parties obscures de notre personnalité, qui des fois d'ailleurs nous surprennent. De temps en temps, des fois, nous sommes surpris de voir qu'on a en nous certaines choses. On les trouve dans les rêves, on les trouve des fois dans nos réactions que l'on ne maîtrise pas, dans nos lapsus, dans différentes choses, des moments où on n'est pas totalement concentré. Et là, se révèlent effectivement, malheureusement, des parties plus obscures de notre personnalité. Voilà donc Yosef qui est sorti du puits, et grâce à lui aussi, le peuple juif pourra s'installer en Égypte et en sortir grâce à cette force que Yosef nous a donnée comme héritage spirituel pour les générations à venir.
Eh bien, on va essayer de s'inspirer de Yosef, qui est, vous allez me dire si je me trompe, le plus grand héros du peuple juif, parce que justement, il est comme vous venez de nous le décrire. C'est lui qui est... Et c'est Ougibor, qui c'est le héros? C'est Akovesh et Tietzro. Et donc finalement, le plus grand, c'est pas le guerrier, c'est pas le général, c'est Yosef qui sait maîtriser ses pulsions, non?
Tout à fait. En fait, on pense que le plus grand guerrier, c'est celui qui sait tuer l'ennemi et se débarrasser de... Non, la force, c'est Kovesh et Ditro, c'est la capacité de se maîtriser, mais pas seulement de maîtriser ses forces, on va dire, physiques, visibles, mais aussi également d'être capable, de même dans les rêves, même dans un moment d'inconscience, d'être toujours resté fidèle et présent dans cet engagement vers Hachem. Et ça, Yosef nous donne de grandes leçons là-dessus.
Rav Guay, je vous remercie et je vous souhaite Shavua Tov, à la semaine prochaine.
Shavua Tov, à la semaine prochaine, au revoir.
Voilà, c'est à mon tour de vous souhaiter Shavua Tov. Excellente soirée à tous.